Bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 43e soirée d'éthique publique, la 8e de cette année universitaire des facultés jésuites de Paris. Bienvenue aux fidèles de ce rendez-vous, à ceux qui viennent pour la première fois et bienvenue aussi, c'est maintenant un rendez-vous habituel et heureux, à nos amis qui sont reliés par l'image et le son, à Bordeaux, à l'église Notre-Dame-des-Anges et au collège de Tivoli, et à Lyon, à l'espace Saint-Ignace. Je rappelle qu'il est toujours possible de s'inscrire à l'accueil au secrétariat si vous souhaitez être tenu informé des prochaines soirées d'éthique publique, et puis il est également possible d'écouter, de réécouter l'enregistrement de chacune des soirées d'éthique publique sur le site internet du Centre Sèvres. Alors le mois dernier, c'était l'actualité de l'Église qui nous réunissait. Peu après l'élection du pape François, nous nous sommes interrogés sur les chantiers du nouveau pontificat. Quelle est la mission de l'Église aujourd'hui? Comment parler de Dieu à ce monde? Quelle Église pour notre monde? Avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris, Isabelle de Golemin, journaliste à La Croix, et le père François Heuvé, jésuite, rédacteur en chef de la revue Études. La prochaine fois, ce sera le mardi 4 juin, ce sera la dernière soirée d'éthique publique de notre année universitaire. Si tout va bien, nous essaierons d'aborder la question de la vérité en politique. Vaste sujet, vous comprenez que je mette quelques nuances dans le « si tout va bien ». Encore faut-il trouver les bonnes personnes pour traiter ce sujet. Vérité politique, peuvent-ils faire bon ménage? Alors, nous verrons ce que cela donne le mardi 4 juin. Ce soir, nous voudrions réfléchir ensemble à la place de l'enseignement catholique dans notre pays. Nous le faisons en partenariat avec la revue Projet, éditée par le CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale animé par les Jésuites. Et je suis heureux de saluer le père Bertrand Herriard-Dubreuil, qui est le directeur du CERAS, qui est avec nous ce soir. La revue Projet, qui publie le numéro du mois d'avril, que vous pourrez vous procurer au stand de presse à la sortie de cette salle, et qui a pour titre « École catholique, école publique, ». Alors nous savons que l'enseignement catholique joue un rôle important dans notre pays. 2 millions d'élèves environ, je parle sous le contrôle de nos invités, sont à ce jour scolarisés dans quelques 8300 établissements catholiques sous contrat avec l'État, soit 17,5% des effectifs. L'enseignement catholique participe donc à sa manière au service public de l'éducation en France, formant ou essayant en tout cas de former des citoyens respectueux des valeurs de la République, contribuant au vivre ensemble. Alors, comment l'enseignement catholique vit et perçoit sa mission? La conférence des évêques, vous le savez, vient d'adopter le nouveau statut de l'enseignement catholique, et il nous a paru intéressant, important, de nous interroger sur la contribution de l'école catholique aux missions de l'école en France, sa spécificité et les enjeux pour l'avenir. Pour nous aider à réfléchir, nous sommes très heureux d'accueillir deux observateurs attentifs des questions d'éducation dans notre pays et du rôle qui joue l'enseignement catholique. D'abord, M. François Dubet, vous êtes sociologue, professeur d'université à Bordeaux, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste des questions d'éducation et du monde de la jeunesse. Vous avez notamment dirigé l'élaboration du rapport Le Collège de l'an 2000, remis à la ministre chargée de l'enseignement scolaire en 1999. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les mouvements sociaux, sur les problèmes urbains, sur la marginalité juvénile, la délinquance, l'école, la socialisation, le travail et la théorie sociologique. Je ne citerai ici que quelques ouvrages directement en lien avec notre propos. Pourquoi changer l'école ? Aux éditions textuelles en 1999, l'hypocrisie scolaire aux éditions du Seuil en 2000, l'école des chances, qu'est-ce qu'une école juste, également aux éditions du Seuil en 2004, les sociétés et leurs écoles, emprise du diplôme et cohésion sociale, avec Marie Durubella et Antoine Verretou, en 2010. Et enfin, votre dernier ouvrage qui est paru cette année, Pourquoi moi, l'expérience des discriminations aux éditions du Seuil. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec nous également, M. Claude Berruet, vous êtes secrétaire général adjoint de l'enseignement catholique, chargé plus particulièrement des questions pédagogiques, éducatives et pastorales. Vous avez été présent, on vous a vu, on vous a lu, surtout les dossiers chauds qui ont concerné l'enseignement catholique ces derniers mois. Je pense notamment, dans les rapports avec M. Payon, le ministre de l'Éducation nationale, les sujets concernant la position de l'enseignement catholique vis-à-vis du projet du mariage pour tous ou plus récemment la réforme des rythmes scolaires. Vous êtes l'une des chevilles ouvrières de la première convention de l'enseignement catholique qui va se tenir, je crois, les 1er et 2 juin prochains au Parc Floral de Vincennes sur un thème qui n'est pas très loin de celui de notre soirée. Avons-nous besoin de l'école catholique ? Vous rappelez souvent avec force que l'enseignement catholique est un point de contact privilégié entre la société et l'Église. Merci d'être avec nous ce soir pour nous partager vos convictions sur la mission de l'école catholique, sa spécificité et les enjeux que vous percevez pour l'avenir. Alors sans plus attendre, eh bien, je laisse la parole à nos intervenants, 20 minutes de parole chacun avant d'entamer le débat, en commençant par M. François Dubet. Comment, selon vous, l'enseignement catholique participe un peu, beaucoup, au service public de l'éducation en France et comment vous voyez, évidemment, son positionnement? Merci beaucoup.
Je vous remercie de m'inviter. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de l'enseignement catholique. D'abord, on l'appelle enseignement catholique, rien n'est moins sûr en réalité. Puisque 90% environ des parents qui envoient leurs enfants dans des établissements privés sous contrat et définis comme catholiques disent que les motivations religieuses ont chez eux une place extrêmement marginale. Donc on peut dire privé, catholique, on peut dire, mais c'est, voilà, on n'est pas dans un système qui est celui de d'autres pays comme l'Allemagne ou la Hollande, de pillarisation où on est dans la définition religieuse, on paye nos impôts à telle église, etc. On est dans quelque chose de très particulier. Deuxième, évidemment, ce constat veut dire que l'école privée, catholique, fait totalement partie du dispositif de l'enseignement public en France. Je disais tout à l'heure, quand vous êtes à 20% en stock d'élèves chez vous, et à 40% d'élèves qui passent, vous avez une minorité de blocage. Vous faites partie du système, personne n'imagine raisonnablement d'enlever cette brique, le système s'effondrerait tout simplement, voilà. L'école catholique fait partie du système. Et j'ajouterais que si on réfléchit historiquement en termes de modèle éducatif, l'école catholique et l'école républicaine se ressemblent étrangement, en tout cas beaucoup plus qu'on ne le croit. Sur les grandes querelles qu'il y a eu, il y a eu la querelle de savoir s'il y avait des crucifix ou des Mariannes sur les et si c'était plutôt Bossuet ou Kant. Mais la technique pédagogique de l'école républicaine s'est largement moulée dans la technique des jésuites. Et d'une certaine façon, pendant très longtemps, les instituteurs étaient formés comme des séminaristes et tous ces gens se haïssaient d'autant plus qu'ils se ressemblaient étrangement, ce qui est d'ailleurs un mécanisme psychologique assez banal. Il y a probablement des différences de style entre les établissements catholiques et les établissements qui ne le sont pas, laïque, mais ces différences de style apparaîtraient à un observateur étranger, j'en suis convaincu, extrêmement mineures par rapport à ce qu'on pourrait voir dans des pays plus libéraux où les communautés religieuses ont développé des styles éducatifs très très particuliers. Voilà, donc ça c'est la première chose qu'il suffit d'affirmer, l'école catholique privée fait partie du système éducatif, ne serait-ce que par les flux d'élèves qui circulent dans le système. Deuxièmement, l'école catholique a une position dans le système, dans ce qu'on pourrait appeler d'une manière un peu désagréable, mais prenez-le comme une métaphore, dans le marché scolaire. c'est-à-dire dans les, ce qui résulte de, du choix plus ou moins organisé, conscient des parents qui choisissent des établissements scolaires. L'école catholique occupe un segment que l'on peut assez bien définir, qui est plutôt un segment dans lequel le recrutement social est beaucoup plus favorisé qu'en moyenne dans l'école publique. Ça reste une école de classe, je suis désolé de revenir à mes clichés aux clichés anticléricaux de ma jeunesse, mais quand même, bon, ça reste une école de classe. Il y a plus de fric dans les familles de l'école catholique que dans les autres. Mais surtout, ce qui caractérise, c'est que c'est une école, c'est pas tellement qu'elle capte les segments supérieurs de la société, parce que les grands lycées privés, publics, captent strictement les mêmes segments, mais c'est que les segments les plus pauvres, l'école catholique, qui est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus absente. Même s'il y a, y compris à Bordeaux, des établissements qui sont dans ces milieux, statistiquement, il n'y a pas de débat. L'école catholique est dans des segments moyens et supérieurs, alors que l'école républicaine est dans des segments supérieurs, moyens et inférieurs. Ça, c'est quand même un avantage qui s'explique par des stratégies familiales que, personnellement, je ne mets jamais en accusation. Je crois que les parents font ce qu'ils pensent être le mieux pour leurs enfants. Il y a d'abord, ça c'est peut-être le plus discutable, une recherche de l'entre-soi. Dans ma bonne ville de Bordeaux, on va, je ne vais pas citer de nom parce qu'on est retransmis, mais ça se transmet comme les vignes, enfin, de génération en génération, voilà. Mais après tout, l'entre-soi, on va le retrouver dans le grand lycée public disons, les médecins et les notaires vont plutôt du côté catholique et les profs et les hauts fonctionnaires vont plutôt du côté public. Mais bon, il y a une recherche d'entre-soi incontestablement. Aujourd'hui, cette recherche d'entre-soi joue sans doute un rôle dans le recrutement, mais le rôle le plus décisif, me semble-t-il, dans le recrutement, c'est la fuite d'autres publics scolaires. C'est-à-dire que le grand facteur de flux vers l'enseignement catholique, c'est de fuir des établissements dont les parents pensent qu'ils n'offrent plus de garanties éducatives. Et les parents font des raisonnements très simples, c'est que ces établissements ont des recrutements sociaux qui sont considérés comme des handicaps pour la réussite des enfants. S'il y a trop d'enfants d'immigrés, s'il y a trop d'enfants de pauvres, j'en conclus que l'établissement ne sera pas de bonne qualité. Et quelquefois, je ne me trompe pas, je veux bien le dire, parce que c'est un raisonnement absolument sociologique, si vous avez une concentration d'élèves qui ont des problèmes, bien évidemment, les conditions d'enseignement sont beaucoup plus difficiles et vous avez plutôt intérêt objectivement. D'ailleurs, les enseignants qui souvent accusent les parents d'avoir des comportements de consommateurs devraient pratiquer un principe de charité exemplaire et en se regardant d'abord, ils verraient qu'ils sont les premiers en général à bénéficier de ces stratégies qu'ils reprochent aux autres d'avoir, qu'ils soient dans le monde catholique ou dans le monde laïque. Donc ça, c'est un second avantage. Et le troisième avantage, est-il réel, est-il supposé? Il est en tout cas clair dans l'imaginaire, dans la représentation des parents, c'est que l'école catholique offrirait, en plus d'une homogénéité sociale, etc., elle offrirait un supplément de qualité éducative réelle, tenant à la plus grande autonomie des établissements, tenant au fait que les enseignants seraient peut-être plus engagés dans un travail d'équipe, etc., tenant au fait que pour les parents, les enseignants sont plus accessibles, ou pour le dire d'une certaine manière, qu'il y aurait une vertu éducative, une qualité éducative plus grande dans le privé que dans le public. On a fait des enquêtes là-dessus, les gens vous disent, ils sont plus vigilants sur les problèmes de violence scolaire, ils sont plus... ils sont plus attentifs aux demandes des parents, d'autres vous disent, en même temps ils se débarrassent un peu plus facilement des élèves à problème. Bon, mais en tout cas il y a un bénéfice d'image qui est extrêmement réel. Alors ça peut poser des problèmes, cette situation que je ne critique pas, je veux bien me faire comprendre, je ne suis pas là pour dire que c'est mal. Cette situation peut poser des problèmes car de manière globale il y a de très très beaux travaux de Pierre Merle que je signale sur la ville de Nantes, où le taux d'enseignement catholique est quand même très élevé, l'enseignement catholique joue un rôle ségrégatif très très fort. Il accentue les inégalités sociales. Voilà. Ça, parce que la concentration d'élèves de milieux favorisés est beaucoup plus forte dans le segment catholique qu'ailleurs. C'est un reproche qu'on pourrait faire, c'est un reproche qu'il faut faire aussi de manière très modérée, je le répète, parce qu'on va trouver des mécanismes identiques ailleurs, et rien n'indique que si on supprimait ces segments, ils ne se reconstitueraient pas dans le public à peu près immédiatement. Mais en tout cas, c'est un problème. Deuxièmement, l'avantage éducatif de l'enseignement catholique peut tenir tout simplement au fait qu'il est privé. C'est un raisonnement très solide qui consiste à dire dès lors que les parents font la démarche de payer, vous sélectionnez les parents qui ont le plus grand souci éducatif. Bon. Et c'est vrai. Je veux dire que si les parents font la démarche de choisir un établissement qui n'est pas l'établissement du secteur, font la démarche de consacrer un peu plus d'argent parce qu'il y a quand même un prix à payer, eh bien, ce sont des parents qui, en général, vont avoir des attitudes scolaires, éducatives, plus, toutes choses égales par ailleurs, plus favorables à la réussite des élèves que d'autres. Bon. Et on le voit très bien actuellement dans les démarches que font les familles de milieux populaires vers la fuite du secteur scolaire, soit dans le public ou soit dans le privé. En général, la démarche, c'est j'essaye dans le public, si ça ne marche pas, je vais aller dans le privé. Ces gens sont généralement des gens très modestes, mais qui disent, moi, je veux absolument que mes enfants réussissent, je veux absolument que mes enfants travaillent bien. Et on voit des choses très amusantes, comme des familles musulmanes, qui choisissent l'école catholique parce que comme ça, ils sont sûrs qu'il n'y aura pas de voyous. Puis ils ajoutent, moi j'ai fait des enquêtes, ils disent, puis quand même ils comprennent mieux la religion que les autres. Voilà, ce qui est quand même un retour des croisades étrange. Voilà. Bon, voilà. Alors tout ça, je dois vous dire que ce sont des choses qui n'ont jamais été véritablement étudiées. Ce sont des idées, ce sont des choses extrêmement vraisemblables, mais on n'a pas, je parle sous l'autorité de Bernard Tout-le-Monde, je crois qu'on n'a jamais eu de vraie comparaison systématique de la valeur ajoutée de l'enseignement catholique par rapport à l'enseignement public, toutes choses égales, par ailleurs. Je dois dire que je viens de diriger une thèse sur les punitions au collège. Alors, première nouvelle, on punit énormément, on punit tout le temps. Au collège, tout le temps. Et on punit partout, dans les établissements privés, dans les établissements publics et dans les établissements chics, dans les établissements populaires. Dans les établissements populaires, on punit parce qu'ils se conduisent mal. Dans les établissements chics, on punit pour qu'ils travaillent plus. Mais ça donne pas une image. Ça donne une image un peu pavlovienne du système éducatif. Voilà. Donc. C'est un problème, voilà, je veux dire, il y a des différences réelles. Quelle est exactement du point de vue éducatif, la nature de ces différences, on ne sait pas trop. Voilà. Je voudrais terminer sur deux thèmes. Je crois que la question, étant donné le durcissement des inégalités sociales dans notre pays, étant donné le durcissement des enjeux scolaires avec des familles de plus en plus convaincues que le diplôme est indispensable, le risque, c'est que l'enseignement catholique finisse par se détacher du système, non pas par vocation des établissements, mais par la réponse à l'offre, à la demande. Excusez-moi, aujourd'hui, les établissements sont soumis à une demande scolaire. Dans une ville comme Paris, c'est très spectaculaire. Les phénomènes de fuite et les phénomènes d'attraction font que les inégalités sociales se creusent, les inégalités scolaires sociales se creusent très fortement. Et elle se creuse très fortement parce que les parents ont le droit de choisir. Et je ne vois pas, d'ailleurs, je le dis très nettement, comment, tant dans le public que dans le privé, on pourrait empêcher les parents de choisir, puisque, grosso modo, un tiers de la population choisit depuis très longtemps toujours ce qu'il a voulu. Donc, dire aux pauvres, vous arrêtez de choisir, mais nous, on continue à aller où on veut, ou bien nous sommes nés, moi j'ai des amis qui vivent dans cet arrondissement et qui sont très très favorables au maintien de la carte scolaire la plus rigoureuse. Croyez-moi, ça n'a rien d'intéressé. Voilà. Donc, je crois qu'on est... Et donc, je crois que la première question que je voudrais poser, c'est que je crois qu'on va être obligé... quand je dis « on », ce n'est pas une majorité, c'est « on va être obligé de se poser bientôt la question de la maîtrise de l'offre ». C'est-à-dire que je crois qu'il va falloir un jour se demander si des établissements sous contrat, c'est-à-dire très largement financés par le public, et des établissements publics totalement financés par le public ne devront pas avoir des politiques explicites de recrutement avec des choses comme des quotas. Car si vous n'obligez pas un enseignement, un établissement à bonne réputation, plutôt chic dans un quartier chic, avoir une part de son public d'origine modeste avec plus de difficultés scolaires, vous allez avoir... des inégalités scolaires extrêmes. Or, vous savez sans doute, en tout cas tout le monde devrait savoir en France, que nous sommes un pays dans lequel l'amplitude des inégalités scolaires est considérablement plus élevée que ce que supposerait l'amplitude des inégalités sociales. Pour me faire comprendre, un pays comme le Canada a plus d'inégalités sociales que la France et a moins d'inégalités scolaires que la France. Donc, derrière nos grands bavardages sur l'égalité, nous sommes un pays qui creuse les inégalités à l'école. Et si on n'a pas une maîtrise, moi c'est ma première question, si on ne négocie pas une maîtrise d'établissement en disant au lycée X, Saint je ne sais qui, et au lycée Jules je ne sais qui, vous pouvez choisir vos élèves, mais nous exigeons que vous ayez tant d'élèves avec tel niveau qui arrivent, des élèves faibles, etc., etc., vous allez avoir des établissements qui vont véritablement par un pur mécanisme. Vraiment, je cite beaucoup là-dessus, ça n'a rien de moral, ça n'a rien d'idéologique. Un pur mécanisme, vous allez avoir un creusement considérable des inégalités. Mon sentiment, c'est qu'on ne peut pas agir sur la demande, on ne peut pas dire aux parents, on vous oblige à aller là, donc il faut agir sur l'offre. Et d'ailleurs, je dirais que la vocation d'un système public, c'est de maîtriser l'offre. Autrement, ce n'est pas la peine, on n'a qu'à donner des vouchers, c'est-à-dire des chèques éducation aux parents qui choisiront leur établissement. Et les pays qui ont fait ça se sont retrouvés dans des situations absolument catastrophiques et les plus libéraux d'entre eux ont immédiatement arrêté parce que ça devenait absolument ingérable. Deuxième remarque que je ferai, c'est que je crois que l'Église, que l'Église et c'est un lapsus, que l'école catholique aurait peut-être intérêt à réfléchir plus fortement qu'elle ne le fait sur son projet éducatif. Aujourd'hui, je crois que l'école en France, alors je vais dire les choses de manière très caricaturale, je crois que l'école en France n'a pas de projet éducatif. Plus personne n'est capable de dire quel type d'individu on peut former à l'école. On fait des discours sur les citoyens, bon. Mais en réalité, il n'y a pas de projet éducatif. C'est-à-dire que, grosso modo, un établissement scolaire, celui dont rêvent les parents, c'est un établissement dans lequel on aligne des heures de cours efficaces pour que des enfants obtiennent des diplômes rentables. Et on met des pions pour qu'ils ne fassent pas de bêtises entre-temps. C'est ça, grosso modo, un établissement scolaire, y compris, souvent, un établissement privé. Et je crois que c'est un problème qui se pose très gravement, parce qu'on ne peut pas sans cesse dire « la famille se défait ». Et en plus, quand la famille est constituée, permettez-moi de dire qu'elle n'est pas terrible toujours, non plus. Les médias rendent idiots. Le marché envahit tout et l'école regarde passer ces phénomènes en disant que c'est lamentable. Je veux dire que je crois qu'il y a un projet éducatif. Et il me semble que là, je crois que l'école privée pourrait avoir une offre éducative, pourrait se donner les moyens d'avoir des projets éducatifs. Elle a plus de ressources. Les chefs d'établissement ont plus de pouvoir. La communauté éducative est plus forte. Et je crois qu'on pourrait imaginer qu'il y a une contribution de l'école catholique pour avoir une offre éducative qui tirerait, c'est mon espoir, l'école publique, qui obligerait l'école publique à aussi se poser ce genre de problème. Car là, je crois que c'est vraiment aujourd'hui le grand déficit de notre système scolaire. C'est cette espèce, au fond, d'école qui est devenue un petit petit marché utilitariste, et tant qu'il n'y a pas de désordre, tout le monde est à peu près satisfait de la manière dont ça se passe. Donc il me semble que là, nous aurions à réfléchir là-dessus, et que l'école catholique, parce qu'elle est catholique, donc parce qu'elle a une tradition d'engagement, etc., pourrait probablement contribuer plus fortement qu'elle ne le fait, y compris d'ailleurs pour accueillir des élèves, ce qu'elle fait souvent, qui n'ont pas de place dans l'autre système, parce que l'autre système a une offre éducative encore plus faible, bien souvent. Ça, je crois qu'il faudrait y réfléchir. Évidemment, quand je dis ça, je marche sur des œufs, parce que je ne souhaite pas du tout que cette offre éducative consiste à dire ce qui a été dit, qu'il faut qu'à l'école catholique, on mobilise les élèves pour qu'ils aillent manifester contre le mariage pour tous. Parce que si c'est ça l'école catholique, moi je ne veux plus payer d'impôts pour elle. Et c'est le retour à la guerre de 1905. Donc c'est quand même un problème qui est posé, c'est que l'école catholique doit être catholique, mais garantir de la manière la plus absolue la laïcité de son offre scolaire. Et au fond, ça serait peut-être une manière de renouveler un projet éducatif. Mais il est vrai que je suppose que pour les gens de l'école catholique, c'est une ligne de circulation extrêmement fine que d'affirmer une conviction, une autorité morale, et de ne pas la transformer en catéchisme. Même si, évidemment, les élèves ont le droit d'avoir, ici comme ailleurs, un enseignement religieux s'ils le souhaitent. Mais je crois que c'est ça aujourd'hui le problème. Donc un problème d'égalité qui est probablement de remaîtriser l'offre scolaire bien mieux qu'on ne le fait, et probablement une contribution beaucoup plus forte sur la capacité de produire des écoles qui soient des véritables milieux éducatifs, et pas simplement des endroits où on passe les diplômes les plus rapidement possible pour qu'ils soient les plus rentables possibles, sachant que, au fond, la vraie vie commence après. Là, j'ai été trop long, mais c'est parce que j'avais rien à dire et qu'on rallonge chaque fois.
Ça va souvent de pair. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Dubé, de nous avoir bien mis en lumière ces deux enjeux, notamment qui vous paraissent importants, celui de la maîtrise de l'offre scolaire pour éviter précisément le creusement des inégalités, et puis la question d'un véritable projet éducatif pour l'enseignement catholique, pour contribuer plus fortement aux enjeux éducatifs du pays. Alors je pense que déjà, on sent que le débat est bien ouvert et que M. Berruet, par son intervention, va essayer d'apporter peut-être des éléments de réponse à ce qui vient d'être dit.
Ah, voilà. Merci. Je disais donc l'intérêt que j'éprouve à ce débat autour de la question à quoi sert l'enseignement catholique, qui fait écho au thème du rassemblement que nous envisageons les 1er et 2 juin. Avons-nous besoin de l'école catholique? Vous redire peut-être très sommairement en deux mots où le réseau des écoles catholiques en est de son histoire depuis les années 2000, sous le mandat du secrétaire général précédent, nous avons beaucoup cherché à, M. Dubé nous interrogeait à l'instant, à revisiter les fondamentaux de nos projets éducatifs, et le fait qu'il nous invite à le faire plus dit sans doute qu'on l'a surtout fait à l'interne et qu'on a sans doute insuffisamment communiqué. C'est la démarche qu'on a appelée les assises de l'enseignement catholique. Sur une douzaine d'années, on a rencontré des milliers d'acteurs de l'enseignement catholique pour essayer de réfléchir ensemble à la façon dont la vision chrétienne de l'homme pouvait interroger précisément un projet éducatif qui doit être d'une certaine façon un projet de société. Dans un second temps, c'est le hasard du calendrier, nous sommes arrêtés pendant 2 ans sur le cadre législatif qui est le nôtre actuellement, François Dubé y faisait allusion, l'association à l'État par contrat, 50 ans de loi Debré, 25 ans de loi Rocard, pour essayer de faire un point d'étape sur la façon dont on avait peut-être profité pleinement ou insuffisamment de la liberté que nous laisse ce cadre législatif. Et nous, cela nous a conduit à un ouvrage qui redit une conviction, le terme a aussi été prononcé par François Dubé, l'autonomie de nos établissements au service de l'intérêt général, non pas une autonomie pour être sûr de pouvoir faire ce qu'on veut sans que personne ne s'en mêle, mais pour, si possible, être plus disponible encore au service de l'intérêt général. Le statut vient d'être voté par les évêques. Vous avez sans doute lu comme moi dans beaucoup de médias qu'on dit que les évêques reprennent en main l'enseignement catholique. Ce n'est pas mon sentiment, mais ça ne vous étonnera pas. J'y vois plutôt un intérêt renouvelé de l'épiscopat, de l'Église, pour l'éducation en général. L'Église s'occupe de l'enseignement catholique, mais c'est dire sans doute l'intérêt que porte l'Église actuellement à cette question centrale pour le devenir de notre société, qu'est l'éducation. Je viens du rassemblement diaconia à Lourdes, le service vis-à-vis de la fraternité. On a beaucoup parlé évidemment de la précarité, de la pauvreté, de certaines formes de misère, mais il y avait aussi une place pour l'éducation, parce que éduquer, c'est bien servir l'enfant, le jeune, la famille, et par eux-mêmes, la société. Et puis nous arrivons donc à cette convention, au titre un peu provoquant, que nous souhaitons ouvrir, parce que vous sentez bien que si on pose la question « avons-nous besoin de l'enseignement catholique ?» et qu'on se la pose entre nous, ou bien on va répondre « oui », ça a grand intérêt pour les acteurs de l'enseignement catholique, ou bien on va répondre non, ce qui serait le signe d'un masochisme assez prononcé. Donc l'événement que nous prévoyons a deux sens, et ça commence en quelque sorte par des rencontres comme celle de ce soir, par la volonté de nous laisser interpeller, parfois un peu rudement si nécessaire, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut progresser, sur le regard que les acteurs de la société, le monde de associatif, politique, économique, porte sur l'enseignement catholique, non pas pour que nous devenions les prestataires de services de tel ou tel champ social, mais pour que nous entendions un certain nombre d'interpellations comme celles qui viennent d'être posées à l'instant. D'où ce partenariat donc avec la revue Projet comme une contribution par un certain nombre d'auteurs à ce rassemblement qui devrait dans la suite nous permettre une interrogation à frais nouveaux de nos projets éducatifs et surtout de leur mise en œuvre. Deuxième point que je voudrais souligner, c'est revenir sur la question de cette association à l'État dont il a été question. Dans un article, celui de Jacqueline Lalouette, on nous fait le récit de la division des deux France, Victor Cousin, Paul Bert, Jean Jaurès. Là, l'idée de deux écoles séparées, voire affrontées, qui, depuis 50 ans maintenant, sont appelées à être associées dans un même système éducatif. Alors, avec la question posée par François Dubé, est-ce que cette école, parce qu'elle est associée depuis 50 ans, devient en quelque sorte indifférenciée? Elle s'est finalement fondue dans un grand tout. Ou est-ce qu'elle reste catholique? Alors, est-ce qu'il est légitime, François Dubé posait aussi la question, que l'État contribue financièrement à l'école d'une communauté religieuse? Le cadre qui est proposé à l'association, c'est celui du contrat, ce n'est pas anodin. Un contrat, ce n'est pas fait pour absorber, pour fusionner ou pour assimiler. Dans un contrat, la personnalité des deux contractants doit être maintenue. Le contrat doit donc évidemment faire en sorte que l'État signataire par le préfet reste pleinement laïque, c'est l'État français, mais que l'école catholique, privée catholique, si c'est de ça qu'il s'agit, reste bien catholique. Alors elle n'est plus catholique par son recrutement, François Dubé le disait, je ne suis pas sociologue, je ne sais pas si 90% de nos parents se disent catholiques, mais qu'est-ce que c'est qu'être catholique? En tout cas, bien entendu, j'ai longtemps été chez l'établissement, je confirme que quand je faisais les inscriptions, il n'y avait pas un nombre considérable de parents dont la première parole était de dire « je veux mettre mon fils chez vous parce que il faut que vous en fassiez un bon catholique ». Généralement, quand je leur proposais, ils me disaient que ça leur ferait peut-être pas de mal. Aujourd'hui, ça peut me faire un peu de bien. Enfin voilà, et ça nous permettait en tout cas de parler proposition de formation chrétienne, laïcité, respect de la liberté de conscience, etc. Mais notre école, si elle mérite encore de s'appeler catholique, doit au moins rester catholique par son projet. Donc c'est ce que j'entends aussi de l'interpellation de François Dubé. Un projet éducatif dont les fondements doivent être clairement annoncés, on ne va pas avancer masqué, et dont nous pensons que ces fondements-là peuvent, sans faire de prosélytisme naturellement, mais être mis à disposition d'une formation au vivre ensemble, et puisque c'est un sujet d'actualité actuellement avec le ce qu'on dit parfois, le retour de l'enseignement moral. Je ne suis pas sûr que la morale ait jamais disparu de l'école, heureusement. Mais en tout cas, il y a sans doute aussi, j'étais ce matin auditionné par la Commission des droits de l'homme, un commun moral à construire qui peut être construit par l'apport, évidemment respectueux, d'un ensemble de traditions philosophiques, spirituelles et religieuses. Donc il me semble qu'on peut vivre une association en étant pleinement associé, pleinement acteur des missions de l'école pour notre nation, tout en ne bradant pas notre spécificité. Je vais même vous dire, c'est une confidence, je travaille dans l'enseignement catholique depuis 40 ans, c'est pas simple tous les jours. Si on se donne tant de mal pour être pareil, écoutez, que demain l'État nationalise et puis ce sera réglé. Sinon, ça n'a pas de sens. Notre légitimité, c'est d'être différent, non pas pour être séparé par je ne sais quel communautarisme, non pas pour proposer une contre-société, mais de proposer un type de projet, des types de projets, parce que les projets sont évidemment faits par établissement, qui peuvent être des contributions différenciées à la formation de celles et ceux qui seront la nation française demain, qui seront les adultes de demain. C'était la première chose que je voulais préciser, mais j'entends bien que c'est peut-être clair pour nous à l'intérieur, que ça est sans doute moins dans la représentation de l'école catholique. Troisième élément de réflexion, il y en aura quatre, assurez-vous, vous aurez bientôt la parole. La revue Projet est introduite par un article de Claude Tellot sur les missions de l'école. C'est pas nouveau dans les titres. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la façon dont chacune des missions est présentée, approfondie et questionnée. La transmission des connaissances, l'insertion professionnelle, l'éducation citoyenne et un thème transversal dont François Dubé a beaucoup parlé, la réussite pour tous à l'école, les questions d'égalité. Alors, je ne sais pas si là je dis à quoi sert l'école catholique ou à quoi nous rêverions qu'elle serve, parce que dans un projet, il y a toujours une part d'utopie. Je suis très conscient des limites, des insuffisances de telle école catholique et puis des réussites ailleurs, parce que comme dans l'enseignement public dans lequel j'ai aussi travaillé, il y a au quotidien des milliers d'acteurs qui vraiment font un travail remarquable. Je suis une centaine de fois sur le terrain par an et je suis vraiment témoin de grandes réussites. Alors la transmission des connaissances, c'est vrai que la pression, notamment des questions d'insertion professionnelle, a pu, depuis quelques décennies, pousser à l'utilitarisme des connaissances. D'ailleurs, un certain nombre d'élèves, j'ai aussi été enseignant, posent parfois la question « Monsieur, à quoi ça sert ?» Et si on dit que ça sert à rien, qu'ils sont déjà pas très motivés en entrant, ça peut être un peu compliqué. Alors que l'école soit légitimement préoccupée de l'insertion professionnelle, c'est une évidence pour notre temps. Je suis aussi parent, j'ai aussi des enfants qui cherchent du travail. Mais il faut sans doute que nous vivions cette tension, c'est pas propre à l'enseignement catholique, mais j'espère que nous pouvons y contribuer, entre une culture scolaire qui doit à la fois permettre de dispenser des savoirs utiles, et puis de nous redire aussi que la culture humaine, elle comporte une part de gratuité, et que bien faire l'homme, comme on disait, c'est pas seulement bien faire un employé, un technicien, un ouvrier, un ingénieur, un cadre. C'est former un adulte un peu solide qui sera capable de s'adapter aux si nombreuses mutations. Enfin, si nous pouvons réussir une insertion professionnelle, on est responsable d'une première insertion qui sera aujourd'hui le jeune qui pourrait penser que pendant 45 ans, il fera le même métier avec les gestes professionnels qu'on lui aurait appris pendant le temps de son lycée ou de ses premières années d'enseignement supérieur. Donc, voilà, contribuer, je vois avec intérêt que le projet d'orientation ajoute le mot culture dans l'intitulé du socle commun des connaissances, des compétences et de la culture. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie question à penser ensemble pour le système éducatif. Qu'est-ce que c'est que la culture scolaire ? Comment ne pas sombrer dans simplement le savoir utilitaire ? Comment sortir d'une hiérarchie des disciplines et d'une course à l'évaluation et à la rentabilité de ce qui peut apparaître parfois en effet comme un marché scolaire et qui l'est carrément dans les si nombreuses officines, du coup complètement payées par les parents. L'éducation à la citoyenneté. Alors nous sommes dans le débat puisque la loi d'orientation prévoit donc la mise en place d'un enseignement de la morale. Et on a beaucoup voulu me faire dire dans les médias en début d'année que s'il y avait un enseignement de la morale laïque, il était évident que nos établissements allaient enseigner une morale catholique. Alors, vous avez déjà vu que l'enseignement de la morale laïque est devenu l'enseignement laïque de la morale. Nous sommes très à l'aise là-dessus. Quand tel ou tel média m'indisposait, je rappelais le mot de Jean-Paul de Haubourget, qui disait que la laïcité, c'est l'Église qui l'avait inventée, donc qu'on l'avait accueilli dans une république laïque, mais il était à l'aise. Si la laïcité est un espace, justement, où pour la construction de la personnalité, on peut faire dialoguer les traditions, nous ne pouvons être que favorables à participer à cet espace. Et puis, si l'enseignement laïque de la morale, c'est essayer d'éduquer à la liberté, à la fraternité, à l'égalité, on n'est pas dépaysé. La question, c'est que pour éduquer, il faut proposer de vivre, proposer de faire des expériences, qu'il ne suffit pas de faire réciter les droits de l'homme ou je ne sais quelle charte. Et que s'il y a un enseignement de la morale, bien entendu que l'école catholique sous contrat dispensera l'enseignement prévu par les programmes auxquels nous sommes soumis. Mais dans les autres espaces de nos établissements, espaces de vie scolaire qui sont sous notre responsabilité, lieux de formation humaine et chrétienne, comme on dit souvent, tel ou tel rassemblement, telle ou telle proposition de débat avec les jeunes, eh bien nous aurons non pas à opposer une morale catholique et une morale laïque, mais à essayer de réfléchir avec les jeunes sans rien leur imposer. Comment on peut, comme chrétien, habiter la liberté, comme chrétien, habiter la fraternité et comme chrétien, habiter l'égalité. Donc il me semble, je pense à des travaux comme à ceux de Marcel Gaucher, de Guy Coq, que finalement, le vivre ensemble commun et le commun moral peut se fonder par des contributions raisonnées et en dialogue d'un certain nombre de traditions et que nous avons là notre partition à jouer, comme d'autres partitions sont à jouer par d'autres traditions. La question de l'égalité, ne pas refaire, n'est pas compétence en termes de sociologie, mais il est évident qu'on voit les chiffres, qu'on constate l'égalité que génère pour une part l'école française, notamment en comparaison d'autres systèmes éducatifs, c'est une vraie question. Les questions qu'a posé François Dubé nous interpellent beaucoup. Alors, on a des explications. Bien sûr, il ne faut pas qu'elles deviennent un alibi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand on regarde les catégories socio-professionnelles, nous sommes en effet beaucoup moins présents. Alors, on est toujours évidemment dans une vision globale sur les catégories sociales les plus défavorisées, plus présentes sur les catégories favorisées. Alors, il y a ça, la stratégie parentale, je n'y reviens pas. Je suis parent, et comme tout le monde, j'ai parfois quelques tensions schizophréniques entre mes convictions de citoyen et puis ma façon d'être de parent. Il y a aussi l'histoire qui fait que nos établissements sont là où l'histoire les a mis, principalement dans les centres-villes, dans les villes telles qu'elles étaient faites au 19e, début du 20e siècle, et que l'urbanisation a fait que ce ne sont pas dans ces lieux-là que vivent aujourd'hui la majorité des personnes en situation plus modeste. Il nous reste, heureusement, des établissements au service de tous. Je pense au milieu rural, j'étais directeur diocésain dans un diocèse rural. Nous avons là, heureusement, des écoles ouvertes à des grandes situations de précarité, des collèges, dans des cantons. Nous avons tous nos lycées professionnels. C'est la tradition des congrégations enseignantes. On n'est pas très loin dans le quartier, des Lassaliens, des Vincentiens, etc. Avec pour nous une vraie question, c'est que quand on regarde l'évolution de nos effectifs, grosso modo, nous restons stables avec une petite progression, mais nous perdons en lycée professionnel. Nous perdons en milieu rural, pour des raisons différentes. En milieu rural, ça se désertifie. En lycée professionnel, il y a le problème de l'insuffisante attractivité de ces formations. Et nous gagnons plutôt dans nos établissements de centre-ville. Donc j'entends bien cette question-là, parce que si on ne travaille pas au redéploiement de nos moyens, si nous ne raisonnons pas la carte de nos établissements, nous risquons de voir ce phénomène s'accentuer. Vient après, Monsieur Prost pose la question dans son article la question sur notre capacité d'aller et d'installer des établissements là où nous ne sommes pas, donc dans des quartiers plus sensibles, dans des villes nouvelles, avec un risque réel. Monsieur Prost était responsable municipal quand j'étais directeur diocésain à Orléans, on en a souvent parlé, parce que nous avons eu l'expérience de construction dans un quartier dit sensible. Mais à l'intérieur même de ce quartier, ce que vous signalez joue à nouveau. C'est-à-dire, l'enseignement, l'établissement catholique qui s'installe pompe, tout est relatif. Les meilleurs élèves du collège public, de zone d'éducation prioritaire, qui, où les enseignants font déjà un travail gigantesque, et accentue la paupérisation des établissements et l'effet de ghettoisation. Alors notre question, c'est de savoir si l'enseignement catholique, en tout cas la préoccupation éducative de l'Église par l'enseignement catholique, a pour seul lieu d'exercice des établissements. Est-ce que dans ces quartiers-là, nous n'aurions pas plutôt intérêt, en lien avec cette association, à proposer des tiers-lieux éducatifs, à proposer des boutiques solidarité et devoir, parce que l'expérience qu'on fait, un, c'est qu'évidemment on a beaucoup de mal à s'y installer, parce que quand on vend 3 écoles rurales, ça ne nous donne pas de quoi installer un établissement dans une ville. Et puis surtout, je ne suis pas sûr qu'on rende, si on ne change pas le système, si on ne régule pas l'offre, comme vous le disiez, un bon service au système éducatif. Voilà, on va laisser place au débat. Deux, trois choses pour terminer. Autour de notre convention des 1er et 2 juin, on a prévu un certain nombre de thématiques où nous invitons justement à le public. Je laisserai là des cartons d'invitation, vous êtes les bienvenus si vous souhaitez poursuivre le débat, autour de controverses, à partir d'un certain nombre de thèmes, la mixité sociale, l'insertion professionnelle, l'engagement citoyen, la créativité pédagogique, l'animation des territoires et l'annonce de l'évangile, parce que, j'allais dire, c'est notre fonds de commerce. Faut quand même qu'on s'en occupe, même si cela ne recouvre pas du tout pour nous une quelconque forme de prosélytisme. Pour ces controverses, nous avons justement invité des observateurs extérieurs auxquels on va demander de nous bousculer. Pierre Merle sera par exemple l'un d'entre eux. Alors, je ne peux pas évidemment anticiper, mais on a préparé cet événement déjà dans beaucoup de territoires et on voit bien apparaître un certain nombre de chantiers qui pourront, j'espère, permettre à l'enseignement catholique d'avancer et d'avancer en dialogue, évidemment, avec l'ensemble du système éducatif. C'est d'abord la question de la communauté éducative, vous la posiez. C'est vrai que le mot a été inventé dans l'enseignement catholique, congrès de l'UNAPEL en 69, repris ensuite, sans doute avec des connotations un peu différentes dans l'enseignement public. Faire communauté, c'est encore pour nous un projet. Il y a de belles expériences, mais il y a aussi des communautés éducatives qui n'ont de communauté que le nom. Faire communauté, c'est vivre ensemble et travailler ensemble pour une même tâche. On est différents, la communauté, c'est pas une communauté de même ou de semblable, c'est justement une communauté de compétences diverses, de sensibilités diverses, de parcours divers, mais qui se mettent ensemble pour travailler à une même tâche. Et il faut qu'on réouvre le chantier de la collaboration école-famille. Je travaillais récemment avec ATD Carmonde, j'entendais à Lourdes ce cri d'une maman, maintenant grand-mère sans doute, épaulée par ATD Carmonde, voilà, qui était capable de s'exprimer avec conviction et assurance devant les 12 000 personnes dans la basilique Saint-Pédis et qui nous disait, quand j'étais parent d'élève, je ne pouvais pas aller à l'école, je ne savais pas quoi dire aux enseignants parce qu'eux étaient intelligents. On ne peut pas ne pas entendre ce type de difficultés et de malaise. Il y a, dans tout le système éducatif, y compris dans l'enseignement catholique, l'énorme chantier de la relation école-famille. On ne peut pas se contenter d'une relation marchande ou de client à prestataire, ça va de soi. C'est le chantier aussi, je ne sais pas là si c'est la communauté, c'est l'équipe, mais d'une organisation des établissements et sans doute d'une réorganisation du service des enseignants, pour permettre un vrai travail collaboratif entre les enseignants eux-mêmes et les éducateurs et le personnel. Quand je visite tel ou tel collège, alors moi je visite dans l'enseignement catholique, mais il y a des lieux extraordinaires, mais il y a certains lieux où je me demande si je ne suis pas dans l'une des dernières entreprises tayloriennes de la planète. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de montage, on appelle ça chez nous un ruban pédagogique. Il y a une matière première, ça s'appelle un élève. Il y a des ouvriers spécialisés, ça s'appelle des profs. Et il y a une sonnette qui, toutes les 50 minutes, fait qu'on déplace la matière première d'un poste de travail à un autre. Des enseignants dans la salle, je m'excuse de cette caricature, mais il y a parfois un peu de ça, quoi. L'ouvrier mathématique met son coup de tournevis mathématique, puis on transporte vers l'ouvrier SVT qui donne son tour de clé, etc. Les enseignants n'y sont pour rien, parce que l'organisation est faite comme celle-là, elle est séquencée. Quand on est dans un centre de formation continue, on accueille des gens tels qu'ils sont, avec ce qu'ils sont. On se demande là où on veut les conduire. Et puis, c'est une équipe qui construit une ingénierie de formation. Et là, on fait équipe. Donc, voilà un premier champ de travail, je pense, important. Le deuxième champ de travail, c'est question de l'égalité, je n'y reviens pas, la question du territoire. On a trop souvent vécu l'école comme un sanctuaire. Et l'école catholique peut, François Dubé le disait, parfois être plus encore un refuge ou un recours pour fuir la différence, pour fuir la mixité. Dans un monde de plus en plus globalisé, il faut véritablement une proximité avec le territoire. Alors la consultation en vue de la prochaine loi d'orientation, quelques éléments dans la nouvelle loi reviennent là-dessus. Le pilotage du système éducatif, y compris pour l'enseignement catholique, ne peut pas dépendre que d'un endroit central. Il faut travailler territoire par territoire pour le service d'un territoire, en même temps qu'il faut qu'on prépare ces jeunes sans doute à de la mobilité. Et puis, je termine, la dernière chose, eh bien, c'est sans doute justement, oui, la question de notre projet éducatif, c'est-à-dire la capacité qu'on saura se donner de construire des propositions originales pour nous fonder sur une tradition qui pourront apparaître comme des alternatives possibles, crédibles, et qui ne doivent surtout pas être des tentatives d'endoctrinement ou de prosélytisme. Voilà, j'ai peut-être plus rêvé qu'un sociologue qui, lui, regarde d'abord la réalité. Non.
Merci. Merci Claude Berruet. Je crois que nous avons bien entendu à travers vos paroles le désir de l'enseignement catholique de se laisser interpeller par le regard que les autres portent sur l'enseignement catholique. Avec l'une des questions qui habite tous ceux qui sont engagés, c'est comment l'école catholique reste catholique par son projet certes, par des propositions différenciées sur un certain nombre de dossiers que vous avez évoqués, la transmission de la connaissance, la question de l'éducation à la citoyenneté, l'égalité, l'inégalité, la présence dans des zones plus défavorisées, l'annonce de l'évangile évidemment, la communauté éducative. Je crois que dans le débat que nous aurons, il y a beaucoup de, j'en reconnais, de chefs d'établissement, d'enseignants, de personnes engagées ici dans l'enseignement catholique. Je crois qu'on aura sûrement à cœur de pouvoir essayer de voir en quoi peut consister véritablement cette différenciation, parce que toute la question est bien autour du projet. Alors je crois que François Dubé souhaitait réagir déjà à votre propos.
Je voudrais réagir et ensuite, évidemment, sur deux choses. D'abord, rappeler qu'il n'y a pas que des projets éducatifs, qu'il n'y a pas que des progrès éducatifs dans les lycées que j'ai connus, qui n'étaient pas de la plus grande poésie. On déplaçait 50 profs toutes les heures, pour que 500 élèves ne bougent pas. Aujourd'hui, on fait bouger 500 gamins pour que 30 profs ne bougent pas. Je reste étonné, et en plus on se plaint qu'il fasse du bruit. Bon. Ça c'est une anecdote. La de remarque plus sérieuse, c'est de dire que peut-être faudrait-il réfléchir en France devant les difficultés considérables que nous avons à transformer le système scolaire. Je veux dire, je vois ici des gens qui savent que depuis 30 ans, c'est devenu quasi pathologique, de changer le système scolaire. Peut-être qu'une des solutions serait de faire que tout le système scolaire passe sous contrat. Après tout, je ne plaisante pas. Après tout, si vous prenez le statut des établissements agricoles, c'est un établissement qui donne une très grande autonomie, ça reste public, etc. Mais peut-être qu'un des enjeux, c'est que tout le monde passe sous contrat. Et qu'il y ait vraiment un contrat entre un financeur, des régions, etc. Un vrai contrat, et pas cette espèce d'organisation étrange qui d'ailleurs va poser de plus en plus de mal aux régions et aux départements qui en ont, me semble-t-il, un peu assez de financer sans cesse des établissements dans lesquels ils n'ont pas le droit de dire un mot sur ce qui s'y passe. Donc il est clair que ça pourrait être un projet. Et l'enseignement catholique ferait partie des contractants d'un monde de contrats qui, de mon point de vue, je dois le dire, ne menacerait pas la République. Je le dis très très nettement là-dessus. Ma troisième et dernière remarque, c'est que je suis extrêmement étonné. J'ai rien d'autre à dire que mon étonnement et ma sidération devant le projet d'enseignement de la morale à l'école. Soyons clairs, je suis pour que les gamins apprennent la morale. Mais l'idée que l'on apprend la morale une heure par semaine avec une leçon de morale, aujourd'hui, avec ce que sont les conditions d'éducation des enfants qui ont une autonomie considérable, qui accèdent à tous les médias du monde, l'idée qu'on va leur apprendre la morale une heure par semaine avec un examen à la sortie, et probablement une demande d'avoir un CAPES de prof de morale, pourquoi pas. C'est une, de mon point de vue, c'est une idée loufoque. Je le dis très nettement, je crois que la seule capacité que nous avons d'éduquer nos enfants, c'est de les faire vivre ensemble dans des mondes moraux. Mais l'idée de leur donner des leçons de morale me paraît totalement absurde. Je voudrais d'ailleurs savoir comment on va faire pour arbitrer entre les morales catholiques, les morales qui le sont moins, les morales musulmanes qui ne sont pas un détail dans notre pays. C'est de la... Je n'ai pas compris. Alors voilà, je le dis très nettement. Je trouve cette idée loufoque. Peut-être que notre ministre a trop aimé Jules Ferry et Condorcet. Mais je trouve qu'il faudrait là-dessus qu'on ait une véritable discussion. Il me semble que l'éducation morale, comme le disait Durkheim, c'était, qui n'était pas un homme de la dernière génération, l'éducation morale, c'est une pratique collective, une manière de vivre ensemble. Ça n'est pas une heure par semaine, une leçon où on explique qu'il faut faire traverser, comme quand j'étais enfant, traverser la rue aux aveugles, et nous allions chercher les aveugles avec véhémence pour au moins en faire traverser un. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Voilà, c'était mes remarques.
Merci, je crois qu'on a bien compris votre point de vue. Alors, il y en aura peut-être d'autres qui s'exprimeront. On va faire passer le micro comme on en a l'habitude. On va recueillir quelques questions, convictions, réactions, et puis qu'on renverra à nos invités. Voilà. Alors, par ici, d'abord monsieur, et puis ensuite madame. Levez bien la main, monsieur, pour qu'on vous voit. Voilà, merci.
Tout d'abord, je suis d'une génération qui a passé ses études à l'école chrétienne et je ne suis pas certain que les résultats de l'éducation catholique dans une école privée soient vraiment très efficaces, enfin en ce qui me concerne ma génération. Je ne dirais pas du tout la même chose devant mes petites filles qui ont 16 et 14 ans, en pleine période d'adolescence, qui sont élevées, je m'excuse de donner le nom, à Saint-Louis de Gonzague, et dont je suis particulièrement frappé par la profondeur de leur foi. Il est évident que dans une école comme celle-ci, si les parents ne s'engagent pas dans l'éducation de leurs enfants, l'enfant n'a rien à faire à l'école. C'est évident. Je ferai une autre remarque. Dans le milieu orthodoxe que je fréquente beaucoup, on ne sous-traite pas l'éducation religieuse à des chairs. C'est une responsabilité que détiennent essentiellement les parents, éventuellement le prêtre de la paroisse. Troisième petite remarque que je fais, dans la Croix d'il y a quelques jours, on cite l'école musulmane sous contrat avec l'État, qui éduque les enfants musulmans selon leurs normes à eux. Évidemment, dans cette école, il n'y a pas de mixité religieuse. Tout le monde est de la même religion, avec des méthodes musulmanes pour éduquer les enfants, séparation des filles et des garçons. Et ce que l'on constate, avec un certain étonnement, c'est qu'il paraît que le succès de cette école est absolument dans le top. Alors, je crois que cette école-là pose un certain nombre de questions.
Merci. On va passer le micro un peu. Madame, levez la main pour qu'on vous voit. Voilà.
Justement, je voulais enchaîner sur le même sujet. C'est le manque d'engagement catholique dans la plupart des écoles catholiques. Rien n'est proposé aux élèves. Dans beaucoup d'écoles, rien n'est proposé aux élèves. Et aussi dans le recrutement des professeurs, puisqu'il y a deux systèmes, on choisit le public ou le privé pour passer à peu près le même examen, mais on s'engage dans le privé. Et normalement, le privé recrute ses professeurs pour témoigner d'un certain engagement auprès des élèves. Et je constate que dans beaucoup d'établissements, on ne veut pas de professeurs trop engagés parce qu'il faut recruter un peu tout le monde. Et puis nous, on ne veut pas être trop catho, en fait. Et moi, je déplore beaucoup cela parce que c'est ce qui cadre les enfants, que ce soit des musulmans ou des juifs ou n'importe quelle confession, les enfants ont besoin d'être cadrés. Bon, ça peut être un autre cadre, mais quand les parents choisissent l'enseignement catholique, ou même s'ils le choisissent pour des raisons de structure ou en pensant que l'enfant va être mieux éduqué, ses parents doivent être avertis dès le début que c'est une école catholique et qu'il peut y avoir la prière, la prière du matin cadre, quelle que soit la conviction des enfants. Même s'il y a des musulmans dans la classe, c'est pas pour ça, on n'est pas obligé de leur dire « Oh, vous n'êtes pas obligé de faire la prière ». Ils sont dans une école catholique, ils font ce qu'ils veulent s'ils ne prient pas, mais ça cadre les enfants. Et ce manque d'engagement est flagrant. Bon, bien sûr, il y a des établissements très engagés, mais la plupart du temps, il n'y a rien du tout.
Merci, madame. Alors, on va prendre une troisième intervention qui nous vient de Bordeaux, pas seulement pour vous faire plaisir, mais parce que nous avons un groupe important qui suit notre rencontre. Voilà.
Merci. Alors, de Bordeaux, on aurait sélectionné une question pour chacun. D'abord, pour Monsieur Dubet, comment pouvez-vous concilier la demande que l'enseignement catholique révise ses fondamentaux et en même temps souhaiter qu'il ne s'exprime pas sur la vision chrétienne de l'homme, par exemple dans la question du mariage pour tous? Et puis une question pour Monsieur Berruet. Comment allez-vous enseigner la théorie du genre dans nos établissements privés catholiques? Et y aura-t-il une obligation pour les enfants de suivre ces cours?
Eh bien, Bordeaux fait très fort dans ces questions. Merci. Merci, Bordeaux. Alors, peut-être, il y a pas mal de choses sur l'enseignement catholique. Je vais peut-être d'abord donner la parole à Monsieur Berruet. Il y a la question de l'engagement des parents, l'engagement, la question du recrutement des professeurs. Voilà, enfin, je vous laisse.
Oui, rapidement, ça mériterait évidemment beaucoup de débats. Il me semble qu'on a déjà entendu là une diversité, c'est-à-dire tel établissement où on dit, voilà, la formation de la foi des enfants est assez profonde, tel autre où on dit, il n'y a rien. Sans doute, des établissements peuvent être en difficulté. Voilà, vous n'êtes pas forcé de me croire, ça peut apparaître comme un plaidoyer pro domo. Je connais quand même beaucoup d'établissements qui font beaucoup de propositions. Ceci dit, je dois aussi vous concéder que je suis parent, j'ai été parent d'un ado dont je suis bien sûr qu'il était dans un bon établissement catholique qui faisait beaucoup de propositions. Je l'ai rarement vu en suivre de très nombreuses. Mais c'était, alors du coup, le responsable, c'était peut-être la famille, plus que l'établissement. La question après, c'est toujours la même, c'est la tension que nous vivons entre une identité que nous ne voulons pas cacher et un accueil de tous qui ne peut pas être compatible avec des formes de prosélytisme ou d'endoctrinement. Donc, voilà, ma réponse peut vous sembler, madame, peut-être insatisfaisante, voire déplacée, mais... comme chef d'établissement, moi, je ne souhaitais pas que la prière soit imposée à tous les enfants le matin. Je souhaitais que ceux qui avaient le désir de prier puissent le faire. L'établissement catholique d'enseignement ouvert à tous doit être évidemment un lieu d'annonce et de proposition. C'est ce que nos évêques, dans leur récent texte, le texte 2006 sur les orientations de la catéchèse, appellent la première annonce. C'est l'originalité de cet espace privé d'un établissement associé à l'État par contrat, qui dans les lieux, qui ne sont pas les lieux où les enseignants sont rémunérés par l'État, doit permettre à des croyants de témoigner et d'annoncer. Ça, je pense que ça se fait de façon assez systématique, mais les élèves, les familles restent évidemment bien libres de leur choix pour ce qui engage véritablement une démarche de foi. Tel établissement peut imposer, et ça nous l'encourageons plutôt, des cours de culture religieuse, des cours de culture chrétienne, des lieux de réflexion de type éthique, etc. Mais pour ce qui est d'un chemin de disciple, d'une initiation à la prière, d'une invitation à la célébration, là il me paraît important que la proposition soit faite et que la liberté soit sauvegardée. Pour nos enseignants, les choses sont aussi, bien entendu, diverses. Les chefs d'établissement qui ont mission, tout chef d'établissement est envoyé en mission par une autorité de tutelle, reçoit une lettre de mission. Ce sont les chefs d'établissement qui sont chargés du recrutement des enseignants. C'est un des articles de la loi de Bray, enfin avec évidemment une mécanique qui fait que bien entendu la nomination, dans son étape principale, se fait par l'autorité académique des services de l'éducation nationale, mais il n'empêche que le recrutement des enseignants se fait après un préaccord puis un accord donné par le collège de chef d'établissement, chargé de vérifier, alors non pas que nos enseignants soient 100% des catholiques pratiquants, parce que nous n'avons pas 139 000 catholiques pratiquants à mettre dans nos classes. Et par ailleurs, je ne sais pas si à titre personnel je le souhaiterais. Là, je n'engage pas la fonction parce que je pense qu'une communauté éducative est aussi riche de diversité. Mais ce que nous vérifions, ce que les chefs d'établissement vérifient dans l'accord collégial qu'ils donnent, c'est la connaissance que l'enseignant peut avoir de l'institution dans laquelle il entre pour qu'il s'y sente à l'aise. Et puis, la reconnaissance par l'institution que nous sommes bien prêts à confier des élèves et une classe à cet enseignant. Mais la question, ça rejoint peut-être la question de la pratique et de la praxis autour de la morale posée par François Dubé. J'ai fait du recrutement d'enseignants. Si j'avais un candidat excellent, catholique, pratiquant et magnifique enseignant qui se présentait, je n'allais pas faire le difficile. Maintenant, je pose la question aux enseignants de la salle. Entre un très bon catholique pratiquant, dont je pense qu'il n'a pas les compétences d'enseignant, et un très bon enseignant qui peut-être n'est pas catholique pratiquant, comme parent, vous voulez que je prenne qui? Bien. Parce que 139 000 enseignants, c'est quand même pas rien, nous sommes en plein renouvellement. En revanche, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est la capacité de cet enseignant que nous recrutons à pratiquer un type d'enseignement de relations éducatives et de relations pédagogiques qui doit être en cohérence. Il peut rester du travail, hein. J'ai bien entendu la question des punitions, par exemple, de François Dubé, mais c'est ça que nous voulons d'abord vérifier. C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un enseignant, un candidat enseignant, il me disait, voilà, je suis croyant, mais pas pratiquant. Bon, bien. Mais si on creusait un peu avec lui, je me demandais un moment s'il n'était pas finalement pratiquant. C'est-à-dire pratiquant en éducation d'un sens de l'écoute, de la disponibilité, de la proximité, de l'accueil. Et du coup, je lui renvoyais la question en me disant, ben, vous me dites que vous êtes croyant non pratiquant, est-ce que par hasard vous ne seriez pas un pratiquant non croyant? Et la question c'est, cet enseignant-là dans une équipe éducative, est-ce qu'il va avoir une pratique professionnelle qui sera bénéfique à l'ensemble et qui sera cohérente avec ce que nous croyons de la conception chrétienne de la personne humaine? Voilà ce que je dirais un peu rapidement, mais ça mériterait évidemment un débat bien plus approfondi.
Alors, on vous laisse sur la théorie du genre, on vous laisse réfléchir et puis je donne la parole à François Dubé. Il y avait une question pour lui.
Non, il y a simplement, effectivement, on est sur une ligne extrêmement subtile. Parce qu'il est légitime que l'école catholique soit catholique, mais dès lors qu'elle est financée par une collectivité qui, par nature, est neutre, c'est-à-dire catholique et d'un côté catholique et de l'autre côté, comme citoyen, il est neutre sur le plan religieux, eh bien... C'est une ligne extrêmement difficile. Et si vous tombez d'un côté en disant c'est une école de catholiques pour catholiques, etc., elle sera privée et réservée aux descendants de l'aristocratie la plus fortunée du pays qui pourra se l'offrir. Voilà. Et elle sera morte. Elle sera encore plus morte, si je peux me permettre, qu'elle ne pourrait l'être aujourd'hui. Donc voilà. Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est évidemment d'une grande subtilité. La discussion sur la vocation, par ailleurs, que vous avez... Je voulais dire que si nous étions dans une assemblée d'enseignants laïcs et républicains et votant massivement à gauche, on aurait strictement la même vocation, la même discussion sur aujourd'hui, est-ce que le métier d'enseignant est un métier à vocation? C'est quand même un formidable problème. L'enseignant catholique qui en faisait... Les instituteurs de mon enfance n'étaient pas des poètes, mais ils consacraient leur vie et avec une vocation incroyable à s'occuper des gamins et le jeudi et le week-end et pendant les vacances. Aujourd'hui, à 4h30, que ce soit dans l'école privée ou dans l'école... il y a quand même de plus en plus de gens. Non, ben pas tous, mais quand même suffisamment pour que les parents le remarquent. Bon. Et donc, on est devant un problème d'une nature différente sociologiquement, c'est qu'il faut professionnaliser les enseignants, ce qui pose d'autres questions très différentes. Et deuxièmement, effectivement, la question du recrutement, qui n'est pas la question de recrutement sur la foi, mais sur l'engagement dans le projet d'un établissement. Pourquoi l'école française est-elle si faible d'une certaine manière? C'est que tant que les enseignants sont nommés par un ordinateur, la création d'une équipe éducative relève de Dieu.
Ah, vous voyez ?
Voilà. du hasard. Voilà. Du hasard. ou du génie d'un chef d'établissement, mais qui est aussi un produit aléatoire. Donc ça, ce sont des questions qui concernent l'école catholique et l'école privée. Et je répète, un monde qui généraliserait peut-être le contrat pourrait permettre d'avancer là-dessus. Dernière remarque, parce que je ne peux pas résister, sur la théorie du genre. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui d'entendre des... Alors, la théorie du genre, c'est mon métier. C'est des inventions de sociologues. D'entendre des débats incroyables. La théorie du genre est une théorie extrêmement simple, qui consiste à dire il y a biologiquement, génétiquement, des hommes et des femmes, et ça semble encore largement nécessaire pour assurer la reproduction de l'espèce. Mais la définition du rôle social et culturel associé à ce substrat biologique est très largement plastique et aléatoire. C'est pas Dieu qui... Dieu a peut-être créé les femmes, il n'a pas dit qu'elles devaient porter des jupes et faire la vaisselle. Non, mais écoutez, on entend quand même des choses incroyablement étranges là-dessus. Il faudrait quand même... Je crois qu'on est en train, c'est peut-être une passion nationale, on va s'inventer une querelle sur la théorie du genre qui me paraît une querelle intellectuellement loufoque. La théorie du genre est une théorie qui dit qu'il n'y a pas de continuité culturelle, c'est-à-dire dans la manière de se conduire en société, entre la définition biologique lourde, épaisse, de l'identité des individus et la manière dont les sociétés attendent qu'ils se comportent. Et il faut faire très attention parce qu'en luttant contre la théorie du genre, on va défendre les stéréotypes familiaux, sexuels, etc., les plus invraisemblables. Donc la théorie du genre, on pourrait, si j'étais catholique, elle ne m'affolerait pas. Elle ne m'affolerait pas. La théorie du genre, je répète, consiste à dire qu'il n'y a pas, comme on l'avait pensé, de déterminisme biologique vers la culture. Voilà. C'est tout. Il n'y a quand même pas de quoi faire une guerre de religion et mettre des millions de gens ou des milliers de gens dans la rue avec des fréquentations parfois extrêmement suspectes.
Voilà, alors on va pas ouvrir le débat ce soir sur la théorie du genre.
Non, mais je dis ce que c'est la théorie du genre.
D'accord. On est sur les questions d'éducation, donc on aura peut-être l'occasion à la rentrée de faire un débat ici sur la théorie du genre. C'est pas le propos de ce soir, sauf si vous voulez ajouter juste un point sur comment l'enseignement catholique...
Deux points très rapidement. Un, là aussi, peu importe, l'épisode est passé. Les médias ont quand même fait dire à l'enseignement catholique ce qu'ils n'avaient pas dit, c'est-à-dire que je vous mets au défi de nous prouver qu'on a appelé à la manifestation. Le même jour, j'ai sur une radio catholique que je ne citerai pas mais qui n'est pas loin de Paris, été accusé par de multiples auditeurs de ne pas appeler à la manifestation et dans une dépêche d'un journal d'être un suppôt du Vatican qui appelait. Donc tout va bien. Moi, ce que je veux dire, par rapport à ce que dit François Dubé, je suis modérément inquiet. Mais je pense quand même qu'il y a une distinction entre porter une jupe et faire la vaisselle et être père et mère. Voilà. Donc c'est et je me dis en tout cas que c'est une question éducative extrêmement intéressante que précisément de regarder ce qui relève de la nature, ce qui relève de la culture et comment entre ces deux pôles, précisément, nous avons à éduquer une liberté. Une liberté qui fera des choix. Voilà. Alors, à l'école, si ça vient dans les programmes, objection de conscience ou pas, à mon avis, c'est pas la question. Si les enfants, les jeunes n'entendent pas parler du genre à l'école, rassurez-vous, ils en entendront parler ailleurs. Ça me paraît intéressant qu'on puisse en parler à l'école, non pas pour faire l'apologie du genre ou d'autre chose, mais pour précisément, je le redis, éduquer chacun à ce patient chemin entre une nature et des cultures.
Voilà. Nous allons reprendre quelques questions. On va grimper un petit peu, voilà.
Donc, il y a un ouvrage qui s'appelle, auquel vous avez fait référence tout à l'heure, Claude Berruet, qui s'appelle « À quoi sert l'école catholique ?» Dans cet ouvrage de François Mogg...
Vous parlez bien dans le micro parce qu'on vous entend.
Dans cet ouvrage de François Mogg, il est fait référence à une expression qui, je trouve, correspond bien à un projet d'éducation catholique, qui est l'évangélisation par le service et par l'annonce. Donc, qui pose la question de la conjonction entre annonce et service d'éducation. c'est-à-dire qui explique que le projet d'une école catholique, c'est justement de conjoindre, c'est-à-dire de témoigner aussi par le service d'éducation. Donc la question, c'est évidemment la question du comment, puisqu'on est dans une société laïcisée, on est dans des établissements dans lesquels nous nous sommes engagés par contrat à accueillir des jeunes dans la diversité, c'est une très grande richesse, mais cette question de l'évangélisation par le service me paraît fondamentale. Mais ceci étant dit, je ne crois pas que la spécificité des établissements catholiques ne soit que dans l'annonce. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Merci. On va prendre derrière une autre question.
Une question courte.
Parlez bien dans le micro.
C'est bon?
Oui, parlez dans le micro.
Dans les collèges et dans les lycées privés catholiques, les élèves qui ne suivent pas les cours de religion catholique doivent suivre les cours sciences humaines, qui comprennent des enseignements sur plusieurs religions, entre autres sur la religion catholique. Ma question est la suivante. De qui dépend le contenu de ces cours sciences humaines, notamment la partie concernant la religion catholique, et qui sont les enseignants?
Merci. On va revenir ici devant.
Oui, merci. Bernard Tout le Monde. Je porte un péché originel dont je suis très fier. J'étais collaborateur d'Alain Savary au début des années 80. Toute la question pour l'enseignement catholique, c'est son double rattachement, ça a été parfaitement expliqué. Il est rattaché d'une part à l'Église catholique et d'autre part il est rattaché au service public par le contrat qu'il accepte de signer. Et les obligations de service public, elles sont limpides, elles sont dans la loi, elles sont aujourd'hui dans le code de l'éducation. C'est l'accueil de tous les élèves sans discrimination et quelle que soit leur croyance, dit la loi. C'est le respect total de la liberté de conscience. C'est l'application intégrale des programmes de l'enseignement public. Je rappelle aussi que les enseignants sont des agents publics, nommés par l'État, recrutés par l'État, nommés par l'État avec l'accord du chef d'établissement. C'est limpide. Côté caractère propre, alors toute la difficulté est là. Et précisément, moi, compte tenu de ce qu'a dit François Dubé, ce qu'a dit aussi M. Berruet, l'évolution de l'enseignement catholique, du fait qu'il accueille, enfin, ou que, en tout cas, il a une population extrêmement diversifiée, c'est précisément, certains l'accusent de ne plus annoncer l'évangile de la manière traditionnelle. Bon, je regrette un peu, là je m'adresse à M. Berruet, que le nouveau statut, justement, lui parle très peu, il y a 368 articles, quelque chose comme ça, l'association au service public. Il y a peut-être un ou deux articles qui en parlent, on en parle très peu. En revanche, tout le reste, c'est le caractère catholique. Vous avez dit l'intérêt renouvelé des évêques. Mais comment se traduit cet intérêt renouvelé des évêques? C'est par la prise de commandement dans les codiacs, etc., toute une série de contrôles, etc. Voilà. Et je me demande si on n'est pas en train, justement, dans l'équilibre entre service public et rattachement à l'Église catholique, si on n'est pas en train d'introduire une sorte de déséquilibre.
Voilà, et on va prendre une autre question. Non, tu montes. Et sur la droite, voilà.
Moi, je connais pas très bien. Parle
dans le micro.
Je connais pas très bien l'enseignement privé.
Dans le micro.
Pas très bien l'enseignement privé catholique. J'aimerais quand même savoir.
Parlez bien dans le micro. Voilà, vous laissez le micro tout près de votre bouche.
D'accord. Par rapport à ce que vous disiez sur le peu d'établissements scolaires dans les zones en plus grande difficulté et sur le fait que vous pensiez que ça pouvait augmenter la ghettoisation, je le déplore et je voulais savoir qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on ne puisse pas penser que ce soit la vocation des établissements catholiques, précisément parce qu'ils sont catholiques, d'intervenir dans ces zones-là. C'est ce que j'aimerais savoir, en fait. Voilà.
Bien, on va peut-être s'arrêter là pour l'instant, et après on reprendra une dernière question. Peut-être, Claude Berruy, il y a beaucoup de choses qui vous concernent d'abord, mais je suis sûr que M. Dubé aura peut-être des commentaires à faire.
Oui, je prends les choses dans l'ordre. Pour la question et la référence au livre de François Mogg, Service et annonce, merci de me permettre de le préciser. Moi, je m'y retrouve très bien. Il me semble que dans mon propos introductif à quoi sert l'enseignement catholique, j'ai évidemment évoqué l'annonce de l'Évangile, mais j'en ai pas fait la raison de l'existence de l'école catholique. L'Église peut inventer d'autres lieux, dispose déjà de nombreux autres lieux pour annoncer l'Évangile. En revanche, si ce que nous faisons a un sens, mais il y aurait la même réflexion à voir, je redis que nous avons vécu ce temps fort de diaconie à Lourdes pour tous les services qui dans l'Église s'occupent de l'attention à la précarité et à la misère. Est-ce que ce sont des ONG comme les autres qui ne font que de la philanthropie, ou est-ce qu'en rendant ce service-là, ils le font aussi au nom d'un engagement, et pour nous croyants, au nom de quelqu'un qui est Jésus-Christ. Donc c'est ça, annoncer. C'est pas dire à l'autre, et tu vas être forcé de croire à ce que je t'annonce, mais je te dis que si je le fais avec toi de cette façon-là, c'est parce que voilà, moi je suis croyant dans cette tradition-là. Donc on est une annonce déconnectée du service, ça n'a pas de sens, c'est scandaleux. Enfin, si vous annoncez toute la journée l'appel à charité, et que votre établissement est sélectif, violent, etc., enfin, on est et dans l'incohérence et dans le scandale. En même temps, dans un monde justement sécularisé, ne pas annoncer au nom de qui on agit, produit aussi de la déperdition. Mais il y a aussi sur notre territoire d'autres traditions religieuses que moi j'ai intérêt à rencontrer et à connaître sans avoir pour l'instant l'intention de me laisser convertir. Donc le service doit annoncer au nom de qui on travaille, et s'il y a une annonce, il faut qu'elle soit évidemment cohérente avec le service éducatif qu'on s'efforce de rendre. Pour la question enseignement des religions, sciences humaines, je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. En tout cas, ce qu'il faut rappeler, monsieur tout le monde le disait, les enseignants sont des agents publics. Donc, quand l'État les rémunère, c'est pour les rémunérer comme agents publics dans un travail d'enseignant au regard des programmes d'éducation nationale. Lorsqu'il y a des activités qui ne relèvent pas des programmes de l'éducation nationale, donc soit des activités proprement pastorales, soit des activités liées à l'enseignement des religions, des cultures religieuses diverses, c'est fait par soit des bénévoles, soit des personnels rémunérés par l'organisme de gestion, sur les frais de scolarité versés par les familles. C'est-à-dire que la loi Debré précise bien que les contributions des collectivités territoriales ne peuvent pas payer l'indemnité de culte du prêtre, du religieux ou l'animateur en pastoral scolaire. Alors, qui accompagne ces personnes-là? Bien précisément l'enseignement catholique par les chefs d'établissement, par des équipes, en lien avec les services de formation de l'Église, et puis en lien aussi avec nos instances de formation. Il y a parmi nous Stéphane Lepleu, qui anime ce qu'on appelle chez nous la mission enseignement et religion, et qui, avec des instituts de formation reconnus, liés à des universités catholiques, propose des formations courtes ou longues, des sessions, des masters sur l'enseignement des religions et donc sur l'approfondissement des diverses traditions religieuses. Sur le statut, monsieur tout le monde, il faudrait qu'on en parle évidemment beaucoup plus avant parce que vous êtes un grand spécialiste. C'est ce que je précisais sans doute dans mon introduction. Il ne faut pas déconnecter le statut des autres textes qu'a produit l'enseignement catholique, texte d'orientation ou l'ouvrage qui fait un peu le bilan et le rapport d'étape sur 50 ans de loi Debré et 25 ans de loi Rocard. Le choix qu'on a fait, le statut dit bien que l'association par contrat est la forme habituelle de nos établissements, cite le caractère propre comme justement étant la proposition qualifiée de nos établissements, mais là c'est l'Église qui parle à son service d'Église, qui redit bien que nous souhaitons rendre un service d'intérêt général, que nous sommes ouverts à tous, mais nous considérons qu'on a déjà dit ailleurs notre attachement à l'association et au contrat, et que là on essaie plutôt finalement de dire ce qui, dans le cadre du contrat, peut aider à préciser ce qu'est notre caractère propre. Voilà. Mais en tout cas, voilà, alors il y a peut-être une maladresse de notre part ou des difficultés, mais le statut tel qu'il se présente n'est absolument pas une mise en question ou une contestation du cadre juridique actuel, qui peut être amené à changer, mais en tout cas qui nous convient parfaitement, ce qu'on a essayé de dire vraiment tout au long des deux années où on a fait le tour de toutes les régions françaises pour dire notre attachement au cadre de la loi Debré. Pour la question de la ghettoisation, merci aussi de m'aider à donner une précision. Bien sûr que nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe dans ces quartiers. Simplement, les tentatives que nous avons faites, j'en ai mené une personnellement comme directeur diocésain, fait qu'à partir d'une bonne intention, j'ai quand même eu le sentiment de n'avoir pas rendu un bon service à ce quartier de la ville dans laquelle je travaillais et d'avoir peut-être accru les difficultés des collèges publics qui étaient en grande difficulté. Donc, si l'enseignement catholique, et nous le souhaitons, peut aller plus vers l'ensemble des populations, il faut sans doute que ce soit inscrit dans ce que François Dubé appelait la réforme de l'offre. C'est-à-dire, si on y va plus dans les conditions actuelles de la carte scolaire, on risque d'accentuer des difficultés. Et en revanche, je redis, parce qu'on ne va sans doute pas changer l'organisation du système éducatif français dès demain, je me dis que s'il faut du temps pour que notre présence comme établissement soit possible et juste au service de ces quartiers-là, on a peut-être dans l'intervalle à réfléchir sur d'autres types de présence éducative pour aider les parents à mieux associer leur parentalité, pour aider les enfants et des jeunes à un travail éducatif en dehors des heures de classe, pour peut-être les aider dans le travail scolaire. Il faut que nous soyons présents à ces quartiers, mais y implanter sans plus de précautions des établissements n'est pas forcément un bon service à rendre à l'ensemble de la collectivité et du service éducatif. Mais ce n'est pas mépris et refus de notre part, c'est prudence pour ne pas compliquer la vie de quartier et la vie d'institution éducative qui connaissent déjà souvent des difficultés importantes.
Merci. Peut-être un commentaire de François Dubé.
Pour dire tout simplement que ce qui est une vraie question assez passionnante philosophiquement, c'est toujours très excitant, ce problème de laïcité, de religion, etc. C'est aussi une question stratégique extrêmement triviale. Soit l'école catholique devient une école privée et fait une offre sur un marché scolaire et elle ne sera plus catholique, soit elle est exclusivement catholique, il n'y aura plus d'élèves. Donc il faut bien vivre dans cette espèce d'ambiguïté. Mais je crois que cette ambiguïté, quand on revient au texte fondateur de l'école républicaine, c'est-à-dire au Jules, aux divers Jules qu'on faisait, ils se posaient strictement les mêmes problèmes, je le signale, sur la neutralité morale de l'école, etc. Donc, ce n'est pas un problème très nouveau, et je crois que c'est un problème qui ne trouvera probablement jamais de solution parfaitement stable. Voilà.
On va prendre une dernière question pour rester dans le créneau horaire. Monsieur monsieur au milieu, non, tu montes.
Ça en avait une là aussi, c'est pour
oui,
ça.
Oui. Non.
Là, c'est bon, non?
Voilà, c'est bon.
Vous avez dit que les enseignants étaient des agents publics. Alors je pense que vous faisiez référence aux enseignants à la fois dans le public que dans l'enseignement catholique. Est-ce qu'on peut parler, à votre avis, d'enseignement catholique pour des professeurs qui travaillent dans le public, mais qui sont chrétiens convaincus et témoignent au sein de leur classe par leur vie évangélique ?
On sent qu'il y a du vécu là derrière. Alors, on va reprendre le micro et comme je suis un être faible et qu'il y avait une demande très insistante devant moi, eh bien, je vais aussi accorder la toute dernière question à monsieur. Et après, je laisse la parole à nos invités.
Je vais être très courte. Vous avez parlé de monsieur Berruet de morale catholique, d'école catholique, dans ces temps d'œcuménisme espéré. Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce que je ne vois pas quelle est la différence, est-ce qui justifie ce titre de catholique, pourquoi pas l'appeler chrétien tout simplement?
Voilà, merci. Alors peut-être d'abord François Dubé et puis ensuite Claude Berruet.
Non, je n'ai rien à dire, sinon que les questions que nous posons sont des questions qui se posent depuis très longtemps sur le devoir de réserve d'un enseignant. Je veux dire, n'importe quel enseignant a quand même le type de problème que vous évoquez. Et il y a logiquement un devoir de réserve, un devoir de retenue. Et moi, je pense en plus que ça n'est pas grave, parce que je pense que la conviction de l'autre ne se fait pas parce qu'on lui raconte. Et c'est pour ça que je suis très résistant à l'égard des leçons de morale, parce que je crois qu'elles ne marcheront pas. Donc, ce que peut transmettre un enseignant à ses élèves, c'est moins ce qu'il leur raconte que la manière dont il se conduit. Et la manière dont il se conduit, elle est par définition parfaitement acceptable, laïque, etc. Je suppose d'ailleurs qu'il se conduit pour des raisons religieuses de cette manière. Voilà.
Merci, Claude Berruet.
Oui, le dernier propos de François Dubé m'intéresse et m'amuse, parce que ça me rajeunit beaucoup. Quand j'ai été embauché comme enseignant à une époque où c'était moins compliqué qu'en 2013, j'ai été accueilli par un prêtre diocésain qu'on appelait respectivement Monsieur le Supérieur, et comme seul viatique, m'a dit ce que vous venez de dire, c'est-à-dire on n'enseigne pas avec ce qu'on dit, on enseigne avec ce qu'on est. Donc voilà, comme quoi il y a sans doute là une vraie ressource. Alors, il y avait deux questions. Enseignement dans l'enseignement public, bien sûr que... Voilà, on a parlé de l'enseignement catholique ce soir, mais la préoccupation éducative de l'Église, elle a beaucoup d'autres lieux d'expression possibles, l'enseignement public, les aumôneries de l'enseignement public, les chrétiens dans l'enseignement public, l'action catholique pour les enfants, la GEC, etc. Il y a tous les mouvements éducatifs, le scoutisme, le MEJ. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de dire à tel ou tel évêque que maintenant qu'ils avaient voté le statut de l'enseignement catholique, moi, il me paraissait important que la conférence épiscopale fasse un signe aux autres services et mouvements et aux autres lieux d'insertion des chrétiens dans la société pour dire aussi la place qu'ils prennent. Alors, j'ai été dans le public, mais ça fait bien longtemps, j'ai été élève, en tout cas dans l'enseignement public. Peut-être que la différence, là, ne tient pas aux personnes, tient à l'institution. Le service éducatif, la façon d'être, j'imagine qu'évidemment, de la part d'un enseignant du public chrétien, elle est marquée par sa foi et son engagement. Sans doute qu'en revanche, pour ce qui est de l'annonce, si je reprends service et annonce, c'est peut-être, en tout cas, c'est d'autres conditions. On peut le faire sans doute dans le cadre de l'aumônerie de l'enseignement public, mais il ne me semble pas qu'un fonctionnaire, l'agent public n'est pas un fonctionnaire de l'enseignement catholique, qu'un fonctionnaire d'un établissement public puisse considérer l'établissement public comme un lieu d'annonce de la foi, comme un lieu de témoignage, de pratique, de recherche de cohérence entre sa foi et sa pratique, bien sûr, mais la question de l'annonce explicite, en tout cas, se pose différemment. Et puis, lorsque je dis enseignement catholique en pleine époque d'œcuménisme, c'est surtout pas pour dire qu'il n'est pas protestant ou orthodoxe, mais il se trouve que les protestants dans notre pays ont fait le choix de l'école laïque depuis très longtemps. Il y a actuellement 3 établissements protestants. Je ne pense pas qu'il y ait d'établissement à caractère propre orthodoxe. Enfin, il faut chercher. Donc voilà, ça veut dire que... Enfin, je ne serai pas dépaysé dans une école chrétienne, mais il se trouve que l'histoire a fait que dans les confessions chrétiennes, ce sont les catholiques qui ont créé de très nombreuses écoles catholiques. Mais n'entendez pas l'école catholique comme l'exclusion des autres confessions chrétiennes.
Ajoutons que l'école laïque, elle a été faite par les protestants pour se protéger des catholiques.
Mais même pour ça, on ne leur en veut pas.
Voilà. Merci à nos invités d'avoir bien mis en lumière les grands enjeux, les défis pour l'école catholique, aussi pour l'école publique, parce qu'on voit que c'est des enjeux aussi qui sont communs, avec des sensibilités différentes à cette table, on l'a bien repéré, mais aussi dans la salle, et c'est bien qu'on puisse parler entre nous de ces enjeux-là. On souhaite une bonne première convention de l'enseignement catholique au Parc Floral de Vincennes.
Des cartons
d'invitation sont à votre disposition à la sortie. Vous trouverez aussi l'excellent numéro de la revue Projet École catholique, École publique qui sera en vente à la sortie. N'oubliez pas la prochaine rencontre, le mardi 4 juin. Vérité politique, peuvent-ils faire bon ménage ? Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.